Nous ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Romains pour relire le passage sur lequel nous avions terminé notre première soirée de réflexion hier. Romains chapitre 12, nous lisons et relisons les deux premiers versets de ce chapitre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons hier soir passé beaucoup de temps à introduire notre sujet, vouloir ce que Dieu veut. Pour tout d'abord souligner l'importance de la volonté du Père dans la vie du Fils. Ce souci permanent de Jésus-Christ d'aligner parfaitement et de manière continuelle sa volonté sur celle du Père. Un des grands messages de l'Évangile selon Jean. Être agréable au Père. Tel pourrait être un titre parmi d'autres donné à cet évangile selon Jean. Nous avons vu aussi que vouloir ce que Dieu veut, le discernement et la pratique de la volonté de Dieu était la grande préoccupation de l'apôtre Paul. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour les églises auxquelles il s'adressait dans sa vie de prière. Nous avons souligné hier soir que avoir la certitude dans notre vie personnelle d'être au centre et non à la périphérie, au centre de la volonté de Dieu, est une force extraordinaire pour les tempêtes de la vie que nous connaissons tous tôt ou tard. Ensuite, nous avons remarqué que Dieu veut que sa volonté soit notre principale préoccupation. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Nous avons souligné hier soir l'importance d'être plus préoccupé par la volonté de Dieu que par notre bonheur. Et je rappelle l'importance dans une civilisation hédoniste, c'est-à-dire centrée sur le plaisir, de ne pas être centré en tant que disciple de Jésus-Christ sur le plaisir, mais vraiment sur la volonté de Dieu. Et donc de ne pas courir dans nos vies de disciples de Jésus-Christ, de spectacle en spectacle, de fête en fête, fussent-elles les meilleures, attirés par les petites lumières comme le sont les papillons de nuit, virevoltant et nous brûlant les ailes et perdant notre efficacité spirituelle, mais que devant chaque programme le plus alléchant qui nous est proposé, même se réclamant de Christ, nous disions Seigneur, quelle est ta volonté? Où est ma place? Où est la priorité? Qu'est-ce qui va m'aider à grandir le plus, à te connaître le mieux, à te servir avec le plus d'efficacité, à être davantage transformé à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ? Voilà des questions que nous devrions nous poser chaque fois qu'une affiche, qu'une invitation orale ou écrite nous invite à un quelconque festin de spectacle évangélique. Or, je suis absolument convaincu que trop souvent, nous n'avons pas cette préoccupation-là. Et que nous sommes un peu semblables aux gens du monde qui, cherchant les meilleurs spectacles, n'est-ce pas, regardent dans tel journal la liste des films et choisissent celui qui leur convient le mieux. Ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une espèce d'hôtel-restaurant dans lequel on vient consommer les mets les plus délicats, se frappant le ventre ensuite en disant « j'ai fait un bon repas ». Ça, c'est la conception de l'Église de Jésus-Christ trop souvent en notre temps, mais ce n'est pas la pensée de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, mes amis. Et nous nous préparons des lendemains qui ne chanteront pas. Parce que je suis persuadé de plus en plus que le jour est proche, mes bien-aimés, où nous n'aurons plus un christianisme de loisir, mais où nous vivrons la situation qui est déjà celle de près de 70% de l'humanité, c'est-à-dire un régime totalitaire. Il se prépare. Il se prépare. Et je ne vois pas pourquoi les chrétiens évangéliques d'Europe occidentale resteraient plus longtemps privilégiés par rapport à la norme biblique, qui est une norme d'opposition du monde à l'Évangile. Et mes amis, nous préparons la solidité de notre vie chrétienne demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et si nous sommes simplement des disciples de Jésus-Christ du spectacle, nous ne tiendrons pas le coup lorsque nous serons dans une situation d'opposition. Nous avons ajouté ensuite que Dieu voulait nous instruire et nous diriger dans sa volonté, et qu'il y a dans sa parole des promesses remarquables concernant sa préoccupation de nous voir au cœur de sa volonté. Alors, la grande question après cette introduction d'hier soir était: mais comment discerner la volonté de Dieu? Nous avons fait tout d'abord une remarque essentielle, à savoir qu'il faut à tout prix éviter une recherche fantaisiste dangereuse. Nous y reviendrons ce soir, un peu plus tard. Nous avons parlé de l'utilisation du sort. Nous aurions pu évoquer cette manière, oh, que je crois à tout disciple de Jésus-Christ a dû expérimenter, sans doute durant les premiers temps qui suivent la conversion, lorsque dans une situation difficile et paniquée, il s'est dit: mon seul recours, c'est de fermer la Bible, de prier un bon coup, n'est-ce pas, d'ouvrir et puis de... Hop ! Vous connaissez tous les histoires qui se racontent à ce sujet, hein ? Est-ce que je les redis, ces histoires ? Celle de celui qui était suspendu et pas loin de mourir par pendaison et qui fut décroché au bon moment, et le brave évangélique de lui dire: écoute, lis la Bible et ça t'évitera bien des problèmes. Regarde ce que la Bible dit. Et quand il eut envie de se resuicider, eh bien, il fit cela. Va et repens-toi. Attention. Et puis nous sommes entrés alors dans le vif de notre sujet en essayant de voir quelles sont les lumières, les points de repère, les facteurs déterminants dans la recherche de la volonté de Dieu. Un certain nombre de petites lumières qui doivent en quelque sorte se juxtaposer, n'en faire plus qu'une seule, et qui sont dans leur totalité comme autant de garanties que nous sommes au cœur de la volonté de Dieu dans nos choix. Et la première de ces lumières, que nous avons appelée la lumière fondamentale, celle qui préside à toutes les autres, nous l'avons vu dans Romains 12, dans les deux premiers versets. Vous avez remarqué avec moi qu'il est question d'être transformé, métamorphosé littéralement, par le renouvellement de l'intelligence, de la nous, la mentalité, le domaine des pensées, afin de discerner sans l'ombre d'un doute, c'est ce que laisse sous-entendre le terme grec, afin de pouvoir tester, mettre à l'épreuve la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La lumière fondamentale, c'est la consécration personnelle. Nous avons de la peine à discerner la volonté de Dieu lorsque nous n'offrons pas nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Offrir nos corps. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait décortiquer le verset premier dans le détail. Mais j'aimerais simplement donner les différentes explications très brèves au sujet de ce verset et faire remarquer tout d'abord que la consécration de nos corps, c'est-à-dire de nos personnes tout entières, qui commence au niveau de notre mentalité, qui a été visitée, éclairée, renouvelée à partir du moment de notre conversion à Jésus-Christ. Mais ce processus est en cours et il doit aller de plus en plus loin, de manière à ce que de plus en plus nous ayons la pensée, la mentalité de Jésus-Christ, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, l'homme spirituel à la pensée, à la mentalité de Christ, avons-nous dit hier soir. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais cette consécration doit être motivée par notre amour pour Dieu. Il est dit, n'est-ce pas, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte de marchandage. Ce n'est pas une relation mercantile que nous devons avoir avec notre Dieu. Mais parce que Dieu nous a tant aimés en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire autrement que de tout mettre sur l'autel par les compassions de Dieu. La deuxième remarque, c'est qu'il s'agit d'une exhortation. Le terme utilisé, le verbe grec, c'est parakaleo. Vous vous souvenez, nous avions étudié le paraclète ensemble, le Saint-Esprit comme soutien, avocat, consolateur, conseiller. Et ici, c'est le verbe. Je vous supplie, aurions-nous pu traduire. Je vous encourage de tout mon cœur. Je plaide auprès de vous pour que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un ordre. C'est-à-dire que nous sommes libres. Vous et moi, nous sommes libres. C'est pour cela que je suis disciple de Jésus-Christ, parce que je suis libre. Je n'ai pas affaire en Dieu à un dictateur. Je suis libre. Dieu supplie. Le grand Dieu supplie. Parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Troisième remarque. Offrir vos corps. Et il s'agit ici, le terme offrir, qui est un terme technique, utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament, ce terme fait allusion à l'Holocauste, c'est-à-dire à ce sacrifice d'un animal qui est entièrement consumé sur l'autel. Il y avait d'autres formes de sacrifices sanglants dans lesquelles une partie était réservée et distribuée. Mais pas dans ce sacrifice-là. Tout était entièrement consumé sur l'autel. C'est cela, offrir notre corps. C'est tout donné. Tout donné. C'est Hudson Taylor qui a dit combien peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Et ça nous choque. Ça nous gêne. Cet absolu de la parole de Dieu. L'an dernier, il y a eu l'anniversaire de la mort d'un as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, qui a enchanté mes lectures pendant mon enfance. Georges Guynemer. Georges Guynemer s'est écrasé dans une des batailles aériennes de la Première Guerre en 1917. Et il avait une devise. Et cette devise était très simple. On n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Et il a tout donné. Et j'aimerais brièvement expliquer l'importance de cette considération. Quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Pourquoi cet absolu? Eh bien, je vais l'illustrer de cette manière ce soir. Imaginons que je sois propriétaire d'un terrain. Je suis propriétaire d'un champ qui compte 1 hectare, 10 000 m². Et je laisse courir le bruit que je mets ce champ en vente. Et voilà qu'un membre de l'église de Longjumeau vient me voir et me dit « Écoutez, frère, on s'aime bien tous les deux. Je suis vraiment désireux d'acheter votre champ. Alors, discutons finance. » Alors, j'articule un prix, on discute quelque peu. Et finalement, l'ami a un grand sourire parce qu'il réussit, semble-t-il, à faire une bonne affaire. Au moment où on s'apprête à régler le marché, je dis, écoutez, attendez un instant. Il faut que je vous dise, j'ai quand même 2 clauses restrictives. Oh, ce n'est pas bien important, mais... Voyez-vous, ce champ, il appartenait à mon père, et puis avant mon père, à mon grand-père, avant mon grand-père, à mon arrière-grand-père, ça remonte jusqu'au temps des Huguenots. Alors, vous comprenez, ce champ a une portée sentimentale très grande, ce qui fait que, oh, j'aimerais bien en garder un petit morceau. Oh, pas grand-chose, un timbre-poste. Disons, 1 art. C'est pas beaucoup. Alors, le membre de l'église de Longjumeau commence à dire « Ouh, ça sent un peu le roussi. » Mais écoutez, rassurez-vous, 100 mètres carrés, qu'est-ce que c'est sur 10 000? Mais voyez-vous, j'aimerais quand même aussi préciser que je ne l'aimerais pas n'importe où, ce timbre-poste. J'aimerais bien l'avoir au milieu des 10 000 mètres carrés. Vous comprenez, c'est mieux, en bordure, on ne sait jamais, mais là, je suis sûr, n'est-ce pas? Il est bien mieux. Et puis j'ajoute, bien entendu, vous savez, quand on a un terrain comme ça, moi je ne suis pas assez riche pour me payer un hélicoptère pour arriver, n'est-ce pas, sur le terrain. Alors, je veux bien vous vendre le terrain, moins ces 100 mètres carrés, si vous me donnez un droit de passage. Parce qu'il faut bien que j'y aille, ce petit bout au milieu. Et je vois le membre de l'église de Longjumeau, je ne vous dis pas qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous croyez qu'il va accepter? Vous accepteriez, vous? Et vous voudriez que Dieu accepte? Que nous ayons de tels rapports avec lui? Parce que c'est ce que nous faisons. Quel est le problème dans cette situation, dans cette parabole? Le problème, c'est que si dans ma vie personnelle, il y a une part que je réserve pour moi, qui n'est pas consacrée au Seigneur. S'il y a un domaine de ma vie qui n'est pas consacré au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ennemi va piétiner toute la partie qui est consacrée au Seigneur pour aller travailler là, dans ce domaine. C'est ça le problème. L'ennemi pollue tout ce que je donne au Seigneur s'il y a un domaine qui est un domaine réservé à Maurice Decker. Et c'est pour cela que Georges Guynemer avait raison. En réalité, si je ne consacre pas tout, je ne consacre rien. Et nous le savons, mes chers amis. Vous savez très bien que s'il y a un domaine ce soir que vous avez réservé pour votre jouissance personnelle, que ce soit dans le domaine de la sexualité, que ce soit dans le domaine des finances, de vos loisirs, ou dans tout autre domaine, si vous avez un endroit où vous avez une pancarte propriété privée, Seigneur, défense d'entrée, éventuellement chien méchant, vous savez combien ça empoisonne votre vie personnelle. Vous savez que ça vous ôte votre paix, ça vous ôte votre joie. Ça vous ôte votre punch spirituel, votre envie de témoigner pour le Seigneur, vous le savez. L'ennemi empiète la portion consacrée de notre vie à partir du moment où il a son domaine réservé. Ça lui sert de base d'envol, n'est-ce pas? À partir de là, il fait des dégâts partout autour. Et l'ennemi cherche à avoir en nous, comme les grands pays de ce monde, des endroits stratégiques pour implanter ses bases. Eh oui. C'est pour cela que nous devons tout offrir. Tout donner. J'ajoute qu'il est dit dans le texte que ce sacrifice est un sacrifice vivant. Tout simplement parce qu'il ne serait pas venu à l'idée d'un juif d'offrir une bête morte. Jamais un juif n'aurait apporté un cadavre. Déjà avec les animaux malades, ça posait de sérieux problèmes, Dieu n'était pas d'accord. Mais encore moins un cadavre. Qu'est-ce que cela veut dire un sacrifice vivant? Cela veut dire que nous devons nous consacrer aujourd'hui. Tout simplement parce que maintenant nous sommes vivants. N'est-ce pas? Vous êtes vivant, moi aussi. Mais dans 5 minutes, est-ce que vous êtes sûr d'être encore vivant? Donc c'est pour maintenant. Nous sommes invités à offrir nos corps maintenant parce que maintenant nous sommes vivants. Demain, on n'en sait rien. Ce soir, on n'en sait rien. Et puis ensuite, il est dit que ce sacrifice doit être saint. Tout simplement parce que, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, notre corps que nous devons offrir est le sanctuaire, le lieu très saint. Le texte grec laisse entendre que c'est le lieu très saint, la partie la plus précieuse du temple. Il est le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire du Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous réalisons ce que ça veut dire. Que le Dieu si grand, qui a créé toute chose et qui soutient toute chose, qui a créé l'homme, qui s'occupe de ce cosmos, ce Dieu-là a accepté de faire de nos corps son sanctuaire. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire? Imaginez que je sois venu à Longjumeau avec une pièce de 10 francs dans mon porte-monnaie. Je peux, à la rigueur, dans les rues de Longjumeau, me promener, porte-monnaie à la main, jouer avec ma pièce. Je ne pense, si jamais quelqu'un me l'a chippé, j'en serais pas tellement malheureux. Parce que je n'ai que 10 francs en poche. Mais imaginez que je sois venu à Longjumeau avec un lingot d'or dans la poche. Vous croyez que je serais en train de danser dans les rues de Longjumeau à l'envoyer en l'air devant tout le monde? Même si je suis disciple de Jésus-Christ, je ne serais pas fou à ce point-là. Dieu veut que nous ayons du bon sens. Parce que j'ai une certaine valeur. Bon, ce n'est pas une valeur salutaire, c'est éphémère, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas notre thème ce soir. Vous voyez le sens de ma parabole. Alors, quand c'est Dieu en esprit qui vient habiter en nous, est-ce que nous pouvons nous conduire comme si c'était le dernier des derniers? Un autre exemple. Quand Israël était au désert, il y avait des milliers et des milliers de tentes qui étaient plantées bien en ordre, tribu après tribu, en ordre circulaire. Et dans ces tentes, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout ce qu'on peut faire dans une maison. Des choses bien, puis des choses moins bien aussi. Je pense à la tente de Monsieur Hakan. Quand on soulevait les tapis, il y avait tout un déménagement en dessous et des choses qui ne plaisaient pas beaucoup à Dieu, loin de là. Mais il y avait une tente dans laquelle on se conduisait différemment. C'était le Saint des Saints et le lieu saint, au cœur du tabernacle. Et on s'y conduisait différemment parce que c'était là qu'il a plu à Dieu de manifester quelque chose de sa gloire, d'avoir en quelque sorte son marchepied et de s'adresser au peuple d'Israël. Avant notre conversion à Jésus-Christ, nous étions les tentes les plus communes du peuple d'Israël dans le désert. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, on a enlevé les tapis, on a fait le nettoyage. Le sang de Jésus est passé là-dessus. Mais maintenant, nous ne sommes plus des tentes ordinaires. C'est vrai que par certains côtés, nous le sommes. De Corinthiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes fragiles, nous sommes des vases de terre. Et pourtant, nous ne sommes pas des vases ordinaires. Nous sommes des vases d'honneur. Nous ne sommes pas des tentes ordinaires. Nous sommes le sanctuaire du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir un changement. J'offre mon corps en sacrifice vivant, saint, bien entendu agréable à l'Éternel. Et il est ajouté ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons demain matin nous réunir ici. Et nous allons nous réunir pour rendre un culte. Si nous voulons que notre culte demain soit un culte raisonnable, un culte logique, un culte décent, conforme à ce qu'une raison illuminée par le Saint-Esprit réclame, notre culte devrait être marqué par la consécration de nos corps. Rien de moins que cela. Oui. Et c'est un culte raisonnable tout simplement parce que celui qui nous a sauvés s'est donné entièrement. Il n'est pas resté dans le ciel. Il ne nous a pas fait des beaux discours en trois points avec introduction et conclusion. Il est sorti du ciel, il est venu jusqu'à nous. Et il s'est donné non seulement dans sa vie parfaite, mais jusque dans la mort. Et s'il s'est donné jusqu'à la mort de la croix, nous ne pouvons pas faire autrement que de lui donner, lui offrir nos corps, nos personnes tout entières, en totalité. Enfin, dans ce résumé, je souligne simplement quelque chose qui n'apparaît pas dans le texte français. Je vous exhorte à offrir vos corps. C'est un impératif. Mais dans le texte original, ce n'est pas un impératif présent. Il appartient à un temps qui n'existe pas en français, mais en grec, qu'on appelle l'aoriste, et qui signifie tout simplement « Je vous exhorte à offrir vos corps une fois pour toutes ». Et c'est très intéressant dans ce texte, parce que si vous regardez les 36 verbes qui suivent, il y a 36 verbes immédiatement après dans le chapitre. Aucun des 36 verbes qui suivent n'est à cet impératif-là. Ne sont à cet impératif-là. Tous sont à l'impératif présent. Et l'impératif présent est un temps progressif. C'est-à-dire que cela signifie qu'il faut faire la chose continuellement. L'aoriste est un temps, si vous voulez, du passé et de l'histoire. J'ai fait une chose, elle est faite, et elle est faite une fois pour toutes, je n'y reviens plus, je ne reviens plus en arrière, mais l'impératif présent, j'ai fait, je continue à faire, je continue de jour en jour. C'est-à-dire que toute notre vie chrétienne, que ce soit dans l'exercice des dons, c'est la suite de Romains 12, que ce soit ensuite dans la vie chrétienne pratique, au niveau de l'amour, dans nos relations les uns avec les autres, ou que ce soit la fin de Romains 12, dans nos relations avec le monde, qui s'oppose à notre christianisme, que ce soit ensuite dans nos relations avec les autorités au chapitre 13, dans le paiement de l'impôt, que ce soit au niveau des préceptes de tolérance des chapitres 14 et 15, dans tous ces domaines, la consécration de mon corps tout entier est à la base. Tout s'appuie là-dessus. Offrez vos corps une fois pour toutes. Ne tergiversez pas, ne revenez pas en arrière, ne discutez pas, n'ayez pas de regrets. Lâchez le morceau, lâchez le paquet, donnez tout. Et ensuite, vivez continuellement sur cette base-là votre vie chrétienne pratique. Et c'est dans la mesure où réellement nous acceptons ce message qui est dans les Écritures, ce n'est pas le mien. Je n'en suis pas le dépositaire, j'en suis simplement le communicateur. C'est dans la mesure où nous acceptons dans nos vies pratiques ce message, qu'alors nous comprenons d'autant mieux, nous saisissons d'autant mieux, nous discernons d'autant mieux la volonté de Dieu. Dans la mesure où cette offrande de notre corps est liée à l'offrande de notre mentalité. Parce que tout est question de mentalité, tout est question de notre intelligence. C'est le cerveau qui commande au reste du corps. Et il faut que le cerveau soit d'accord. Il faut que j'acquiesce dans ce que la Bible appelle le cœur. Mais nous pouvons l'appeler le cerveau. Si là, au niveau de mon cerveau, je dis Seigneur, d'accord. Si au niveau de mon cœur, je dis Seigneur, d'accord. Et je veux te soumettre mes pensées. Je veux que tu règnes sur ma mentalité, que tu la transformes. Seigneur, transforme, métamorphose-moi au niveau de ma mentalité pour que j'apprenne à penser comme tu penses. Mes amis, il va se passer des choses extraordinaires dans nos vies. Et notre mentalité va différer de celle du monde de manière absolument fantastique. Voyez-vous, et j'aimerais aller plus loin ce soir, je termine donc sur ce point en disant qu'à partir de la nouvelle naissance, le grand ennemi reste la volonté propre, l'esprit d'indépendance. Le grand ennemi, ce sont les non, ce sont les mais, ce sont les si. Et c'est ce qui donne dans nos vies, et je peux vous le dire dans la mienne autant que dans la vôtre, beaucoup de travail au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit traiter, courber, purifier la volonté, changer la mentalité, briser l'esprit d'indépendance, faire tomber les préjugés, les idées préconçues, les habitudes, les illusions sur soi. Tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de sa volonté. Dieu veut m'amener à la souplesse, à la disponibilité, à l'obéissance rapide. Il veut m'amener à aimer sa volonté. Tout le problème, voyez-vous, dans nos vies est lié à notre moi propre, à notre orgueil, à notre vie égocentrique. C'est Moody qui a dit ceci, « Jamais je n'ai rencontré une personne qui m'ait causé autant d'ennuis que moi-même. » Et c'est vrai. Et voyez-vous, Dieu n'améliore pas notre moi. Il existe un évangile humaniste qui parle de l'amélioration du moi, même dans les églises évangéliques, mais Dieu n'a jamais dit qu'il améliorait notre moi. Il existe une psychologie évangélique qui améliore le moi. Ce n'est pas de Dieu. Dieu liquide notre moi. Et il l'a liquidé à la croix. Il l'a liquidé à la croix. Et il n'y a qu'une seule haine qui produise des fruits bénis de Dieu. C'est la haine de notre moi propre. Je ne veux pas dire la haine de notre personne. Je te loue, Seigneur, de ce que je sois une créature merveilleuse. Mais de ce moi charnel, indépendant, qui n'aime absolument pas qu'on lui écrase le bout des doigts de pied, n'est-ce pas ? Qui se redresse en sifflant comme vipère quand on a le malheur de ne pas penser comme lui, qui cherche la première place, n'est-ce pas ? Qui joue la vedette, qui aime les grands rôles. Ça alors, ça c'est ce que Dieu hait d'une manière toute particulière dans ma vie. Vous connaissez le Notre Père ? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que mon règne et ma volonté propre doivent disparaître. Et je sais, et je vous le dis franchement, ma nature n'aime pas ça. C'est Pascal qui a dit ceci, « La volonté propre ne se satisfait jamais, mais on est satisfait dès l'instant qu'on y renonce. » Voyez, le christianisme, c'est quelque chose de sérieux. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de triste et de négatif. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que le christianisme, c'est sérieux. Ça vaut le coup parce que c'est sérieux. Alors, j'ajoute, parce que c'est dans le texte, la volonté de Dieu, elle ne doit pas nous faire peur. Parce que c'est ça parfois notre problème. Nous disons, mais Seigneur, si je commence à prier pour faire ta volonté et pour découvrir ta volonté, quelle volée de coups de bâton je vais recevoir ? Nous avons peur de la volonté de Dieu. Nous avons l'impression que Dieu va en profiter. Si nous lui donnons le petit doigt, il va prendre la main. Si nous lui donnons jusqu'à l'épaule, il va prendre le reste. Vous savez comment c'est. Hein, on dit, me donner au Seigneur, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Or, il est dit que la volonté de Dieu est bonne. Aïe, 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 comme ils disent aux Antilles, nos chers amis. Elle est bonne. Eh oui, mais on ne se rend pas toujours compte d'emblée qu'elle est bonne. Vous croyez que nos chers enfants, nos chers chérubins, quand nous voulons que notre volonté soit faite dans leur vie, vous croyez qu'ils se rendent compte tout de suite qu'elle est bonne? Il faut parfois qu'ils attendent d'avoir 30 ou 40 ans pour dire « Ouais, papa, il avait quand même raison. » Ouais. Alors, dans notre vie avec le Seigneur, c'est la même chose. Nous disons aujourd'hui « Aïe, 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 aïe !» Et puis dans 10 ans, nous disons « Seigneur, que tu avais raison. » Eh oui. Et c'est ça ce qui compte. Et c'est ça ce qui compte. Et c'est là que la foi entre en jeu, n'est-ce pas? De dire « Écoute, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu veux me mener par ce chemin-là. J'ai cherché ta volonté, tu m'as montré un chemin tellement biscornu, et pourtant je suis sûr que c'est le tien, j'ai pris toutes les précautions dont nous allons encore parler. Seigneur, je ne comprends pas. Mais enfin, je fais confiance à ta parole. Ta volonté est bonne. » Et puis elle est agréable, s'il vous plaît. Agréable. C'est-à-dire qu'elle est belle autant que bonne. Vous croyez que Dieu n'a pas d'esthétique? Dieu est le plus beau des esthètes, le meilleur des esthètes. Sa création avant la chute devait être quelque chose de fantastique. Quand on voit ce qu'il reste comme beauté de la création primitive, ça devait être extraordinaire. La volonté de Dieu est agréable. Agréable. Elle lui est d'ailleurs d'abord agréable à lui dans nos vies. Et avec le temps, nous finissons par la considérer comme agréable. Et puis elle est parfaite. Elle est parfaite dans un sens particulier. Le terme laisse entendre qu'elle mène à maturité. Elle permet d'atteindre un but. Elle épanouit l'homme. La volonté de Dieu dans nos vies nous épanouit. Elle fait de nous des disciples de Christ mûrs, matures, équipé, propre à toute œuvre bonne. Nous aurions pu dire ceci d'une autre manière, parce qu'il y a divers langages qui se rejoignent. Lorsqu'il est dit, par exemple, au psaume 25, psaume 25, verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. » Et un peu plus loin, verset 9, « Il conduit l'Éternel, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » C'est beau, n'est-ce pas? Pour pouvoir percevoir la volonté de Dieu, être conduit dans la volonté de Dieu, il faut l'humilité. Et c'est ça l'humilité, n'est-ce pas? C'est le renoncement au moi orgueilleux, indépendant. C'est l'échange contre le moi dans lequel Jésus-Christ habite. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis vous avez cette promesse du verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. N'est-ce pas? C'est la meilleure réponse pour ceux qui ont peur de la volonté de Dieu. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Rendez compte? Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Que c'est beau! Quel est l'homme qui craint l'Éternel, qui le respecte, et qui le respecte de tout son cœur? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, verset 12. Ça, c'est la même chose que ce que nous venons de voir dans Romains 12, mais simplement dans le langage de l'Ancien Testament. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, le psaume 25 tout entier est un psaume consacré aux conditions de discernement de la volonté de Dieu. Nous devons aller plus loin, parce que nous n'avons vu que la première lumière. Mais elle est tellement importante, elle est tellement fondamentale qu'il fallait nous arrêter suffisamment de temps pour que Dieu puisse nous convaincre. Deuxième lumière, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et je la mets en seconde place parce que je crois que elle est absolument prioritaire, elle aussi. Nous aurions pu la mettre à égalité avec la première lumière. Mais la première lumière montre que nous sommes engagés activement, que notre christianisme ne doit pas être cérébral. Notre christianisme ne doit pas être statique. Sinon, nous risquons de finir dans les statistiques simplement, n'est-ce pas? Deuxième lumière, la parole de Dieu. La connaissance de Dieu par sa parole. Nous avons dans le psaume 40, dans les versets 8 et 9, un texte messianique repris dans l'épître aux Hébreux, psaume 40, versets 8 et 9. Nous avons un texte messianique qui annonce l'attitude du Seigneur Jésus lui-même, nous en avons parlé hier soir, et ce texte dit ceci: « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, je prends plaisir. » Ce n'est pas une corvée. « Et ta loi est au fond de mon cœur. » Vous remarquez le lien entre les deux? Cette proposition « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu » est un sandwich. Hein? Entre deux tranches de pain, qui est le pain de la parole de Dieu. « Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, première tranche au-dessus, hein, et en dessous, ta loi est au fond de mon cœur. » Nous l'avons dit, c'est un passage messianique qui annonce la personne, l'œuvre, l'attitude de Jésus-Christ au milieu des hommes. Il se trouve, et c'est intéressant, que 1/10 des paroles de Jésus dans les évangiles sont directement tirées de l'Ancien Testament. 1/10. C'est-à-dire que sur une recension de 1800 versets des évangiles, vous avez 180 citations ou allusions directes à l'Ancien Testament. Ce qui signifie que Jésus-Christ était vraiment imbibé, imprégné de l'Ancien Testament. Peut-être le connaissait-il par cœur, mais il en était entièrement imprégné. Alors on comprend son cheminement agréable au Père. Je dirais que continuellement, il pouvait appliquer dans sa vie les prophéties de l'Ancien Testament le concernant, il les connaissait. Et il savait donc qu'il était au cœur de la volonté du Père continuellement, déjà par son imprégnation du message de l'Ancien Testament. Et puis nous savons le psaume 119 et le verset 105, n'est-ce pas? « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et cela veut dire quoi? Tout ce que nous venons de dire sur la parole de Dieu. Cela veut dire que la volonté de Dieu n'est jamais, jamais en opposition avec la parole de Dieu. Pour une simple raison, c'est que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous avons dans les Écritures, c'est un message qui nous est donné pour nous exprimer la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, la philosophie de Dieu, la volonté de Dieu. Et il importe de dire que le Saint-Esprit nous conduit toujours, mais toujours, en accord avec la parole de Dieu. Toujours. D'où l'importance d'une imprégnation permanente des Écritures. Et je suis absolument convaincu que notre christianisme spectacle, pardon d'y revenir, je vous le dirai tout le week-end, notre christianisme spectacle en ce moment nous détourne des Écritures, mes amis. On passe des bons moments. Mais on n'a plus de point de repère pour discerner la volonté de Dieu dans notre tous les jours. C'est beau les concerts, moi j'aime la musique. Et je ne voudrais surtout pas avoir de problème avec certains des conducteurs de musique de nos milieux évangéliques, mais pourtant je le dis. On se couche avec de la belle musique, mais le lendemain matin il faut se lever. Hein. Et quand on se lève, on ne va pas faire de la musique, on va au boulot. On est confronté avec les problèmes quotidiens, on a des choix à faire. Est-ce que c'est la musique qui va vous donner la direction des choix à faire? Ou est-ce que c'est notre imprégnation de la parole de Dieu? Le temps que nous aurons passé dans le sanctuaire. L'auteur du bon livre, Notre santé mentale, a écrit ceci. La lecture personnelle des Écritures, régulière et systématique, imprègne notre esprit des principes de la parole. Au fur et à mesure qu'augmente notre connaissance de la Bible, nous percevons plus distinctement l'influence du Saint-Esprit sur notre esprit. Et l'auteur ajoute, croire qu'un verset isolé de son contexte peut apporter une réponse définitive à un problème particulier, quoi que cela puisse arriver, mais rarement, c'est se méprendre sur le sens de l'Écriture. La parole de Dieu exige une étude attentive sur des mois et des années pour fournir à notre esprit les éléments nécessaires qui nous permettent de prendre des décisions importantes sous la direction du Saint-Esprit. Alors vous me dites, oui, mais ça pose un problème. Alors jusqu'à ce que je sois capable de discerner la volonté de Dieu, il faut que j'étudie la Bible pendant des années. Alors qu'est-ce que je fais au début de la vie chrétienne? Eh oui, mais le petit bébé, au début de sa vie, il a maman qui lui donne le lait, il a papa. Hein? Hein? Et puis un jour, on dit au petit bébé devenu un peu plus grand, maintenant, tiens ta cuillère comme il faut et mange. C'est pas vrai? Alors il y a, c'est vrai, un temps de grâce tout à fait particulière. Celui qui suit la nouvelle naissance. Où on a autour de soi, parce que normalement, quand on est tout jeune bébé, on doit être dans la maternité de l'église locale. Hein. On n'est pas dehors, dans la rue, tout seul. Là, on en a déjà parlé dans le passé. On est avec l'église locale. Et alors, on a des frères et sœurs, on prie ensemble, on lit la Bible ensemble, on est conseillé, on est aidé, et on a le secours tout à fait spécial du Saint-Esprit. Une grâce tout à fait particulière. Mais on doit casser la croûte. On doit se nourrir spirituellement tout de suite. On doit manger, prendre des vitamines et toutes les vitamines. Et plus on connaît, plus on doit s'appuyer sur ce que l'on connaît, n'est-ce pas? Alors un bébé qui arrive à 2 ans et qui en est encore au stade des premiers temps, là, du premier âge, on dit que c'est un petit paresseux. C'est pas vrai? Il faudrait quand même qu'il s'y mette à la cuillère, hein, et puis qu'il ait un petit peu de nourriture plus consistante. Alors on peut, hélas, dans notre vie chrétienne, connaître le même genre d'expérience. On reste au lait. Olé, olé. Et avec ça, le squelette ne se forme pas. On a un tas de problèmes, n'est-ce pas? Et on devient vite malade. L'auteur de ce livre d'ajouter, le Saint-Esprit ne donne jamais de directives contraires aux enseignements fondamentaux de la Bible. En cas d'hésitation, il faut contrôler l'écriture par l'écriture, comparer les différents versets qui peuvent s'appliquer à la décision à prendre. Alors ici, j'aimerais quand même terminer par quelques remarques ce soir. Ma première sera pour souligner quand même que la Bible n'est pas une encyclopédie de réponses toutes faites. pour la plupart de nos décisions à prendre. Si vous voulez, elle n'est pas une collection de préceptes sans rapport les uns avec les autres. Je veux dire par là qu'on ne peut pas utiliser la Bible comme on va dans le Grand Robert ou dans Larousse, sous tel nom pour avoir immédiatement la solution à notre problème. C'est vrai que la parole de Dieu contient de nombreuses indications très précises sur des questions de détail. C'est vrai. Mais il faut se rappeler que c'est une parole que Dieu a donnée aux hommes pour tous les temps. C'est une parole qui traverse le temps et c'est une parole transculturelle, c'est-à-dire valable en tout temps et pour toute culture. Cela veut dire, bien entendu, qu'il faut qu'elle puisse s'appliquer à toutes les modernités, à toutes les situations modernes au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est là le miracle de la parole de Dieu. C'est qu'elle n'est pas vieillotte, alors qu'il n'est pas question d'ordinateur. Parce que Dieu a réussi l'exploit, et c'est unique, il n'y a pas d'autre livre sur la terre. Dieu a réussi l'exploit de nous parler d'ordinateur sans que le terme y soit. Ça, c'est fantastique, n'est-ce pas ? De manière à ce que cette parole soit compréhensible en tout temps, et aussi bien pour le disciple de Jésus-Christ dans la forêt vierge, ou sur une île du Pacifique, que aux États-Unis ou en France. C'est fantastique. Il faut se souvenir que la parole de Dieu nous présente des principes de vie et de conduite valables pour tous les temps. Et bien des réponses précises à nos situations particulières sont implicitement, pas explicitement, mais implicitement contenues dans ces pages. C'est-à-dire qu'il faut les chercher. Et qu'il faut les chercher en s'imprégnant de la mentalité de Dieu à travers toute sa parole. C'est-à-dire, une fois de plus, la parole de Dieu n'est pas pour ceux qui veulent rester cossards. Paresseux. La parole de Dieu est pour ceux qui en veulent vraiment. Elle est un trésor, n'est-ce pas ? Mais il faut aller creuser des galeries dans la mine. On ne ramasse pas les pierres précieuses à la surface du sol seulement au début de sa conversion. Dans les premiers temps de la nouvelle naissance, c'est vrai, il y a des pépites à hauteur du sol. Mais plus on avance avec Christ, plus il faut creuser les puits, et puis des galeries. Et on va de plus en plus profond. Si nous ne voulons pas transpirer dans notre vie chrétienne, nous ne serons pas inspirés, nous ne serons pas guidés. Dieu est pour ceux qui veulent vraiment de lui, pour ceux qui le cherchent. Nous en avons la preuve par les paraboles, n'est-ce pas ? Quand Jésus a changé de langage, et qu'il a commencé à utiliser des paraboles, ce qu'il n'a pas fait au début de son ministère. C'était un langage obscur pour ceux qui ne voulaient pas chercher. Pour ceux qui avaient déjà mis Jésus en boîte, et qui étaient malhonnêtes, enfermés dans leurs préjugés orgueilleux. Mais il y avait les disciples. Et les disciples qui étaient de véritables chercheurs, eux, ne se contentaient pas des paraboles racontées à la foule. Quand la foule était dispersée, qu'ils se retrouvaient avec Jésus, ils s'accrochaient à ses bases qui lui disaient « Maintenant, Rabbi, hein, nous voulons savoir à fond ce que tu as voulu dire. Maintenant, on creuse. Hein, parce que nous ne sommes pas satisfaits de la petite étude biblique de tout à l'heure. Nous voulons plus !» Et alors Jésus leur ouvrait tout grand les trésors de son cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il n'est pas question de cigarettes dans la Bible, n'est-ce pas? Et il n'est pas question directement de télévision non plus. Mais nous avons des principes dans la parole de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu qui peut s'appliquer à cette situation de la cigarette, de la télévision et de tant d'autres choses, n'est-ce pas? J'aime, et je le souligne simplement au passage, parce que c'est une aide pour la recherche de la volonté de Dieu, j'aime évoquer, notamment pour la cigarette, c'est intéressant, le filtre de la foi chrétienne. On ne peut pas mieux tomber, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17, nous avons déjà vu le texte, n'est-ce pas? Qui dit que « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Et puis au chapitre 6 et au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Ce qui est intéressant, dans le terme « utile », il y a aussi une idée de communauté. C'est-à-dire non seulement utile pour moi dans l'utilisation, mais pour l'effet que ça a sur les autres. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, quand on recherche la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle pratique qui est la nôtre, on peut simplement aller comme ça, n'est-ce pas? La cigarette. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. On peut appliquer aussi, ça c'est un principe des Écritures. Il est là, mais il est partout dans les Écritures, ce principe. Il appartient à la mentalité de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons asservis par quoi que ce soit. Lui veut être notre seul maître. Et alors il est un maître bien. On est heureux de le servir. On est prêt à mettre l'oreille à la porte pour qu'il fasse un trou là, parce qu'on veut le servir par amour, lui. Et puis ça continue, n'est-ce pas, dans le chapitre 10, au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Alors on peut se poser des questions, n'est-ce pas, est-ce que la cigarette, ça construit les poumons, ou est-ce que ça les détruit? Enfin, bref, on peut répondre soi-même. Et puis alors, les versets 31, n'est-ce pas? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Alors, c'est bien parce qu'on peut tout mettre. Hein? Soit que vous fumiez, soit que vous regardiez la télévision, soit que... Enfin, bref, tous les soit que vous voulez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, chez les Hébreux, c'est le poids de Dieu. Faites tout pour que les autres voient que Dieu a vraiment du poids dans votre vie. Et puis, dans la pensée générale de la Bible, la gloire, c'est l'ensemble des perfections de Dieu, l'arc-en-ciel des perfections morales de notre Dieu. Faites tout pour que la beauté du caractère de Dieu soit visible à travers vos actes. Aïe, 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 hein? Ce soir. Donc, je le redis, on ne consulte pas la Bible comme un dictionnaire. C'est un exercice du cœur. Nous entrons dans la pensée de Dieu. Nous apprenons à penser comme Dieu pense. Alors, attention là. Je termine par quelques remarques ce soir à partir de ce que je viens de dire. Attention à ne pas utiliser des textes isolés pour appuyer, pour justifier des actes, des attitudes auxquelles la Bible, dans ses principes, est tout à fait opposée. La Bible ne se manipule pas, parce que Dieu ne se manipule pas. Et quelqu'un dit bien avant moi que sortir un texte hors de son contexte, c'est trouver un prétexte. Et ça, mes bien-aimés, en 1988, nous devrions l'inscrire dans l'endroit que nous fréquentons le plus. Parce qu'alors, jamais, depuis bien des années, Jamais il n'y a eu autant de manipulation des Écritures dans nos milieux évangéliques qu'à l'heure actuelle. De telles attitudes sont à l'origine du fanatisme et de l'esprit sectaire. Ça, c'est la tactique du diable. Quand le diable a tenté Jésus, vous savez, pendant 40 jours, quand il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti des versets de la Bible de leur contexte. Ouais. Il a pris des textes isolés. Il a même tronqué un verset de la parole de Dieu. Il ordonnera aux anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, mon œil, pardon de le dire comme ça. Il ordonnera aux anges de te garder dans toutes tes voies, dit le texte. Et seulement après la suite. Le diable a évacué l'essentiel du texte. Il n'a pas changé depuis. Comment est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a répondu en se conformant aux principes des Écritures. C'était les principes de la parole de Dieu. Jésus n'a pas du tout eu la même utilisation que le diable en ce qui concerne les versets de la parole. Alors c'est important parce qu'il arrive dans nos milieux évangéliques qu'un texte, une portion de verset, voire un verset, s'impose avec force à l'esprit. Et parce que ce verset ou cet extrait de verset s'impose avec beaucoup de force, nous disons, ça y est, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, j'ai eu une illumination fantastique, et avec ça, on se lance dans des attitudes complètement opposées aux principes bibliques de la sainteté et de l'amour. Il n'y a pas que les ex-enfants de Dieu qui utilisent le verset le disciple de Christ doit haïr son père et sa mère. Hein. Il n'y a pas que. Il faut savoir ce que le texte biblique veut dire quand Jésus utilisait ce type de langage. Et pour cela, Dieu a eu la sagesse de nous donner plusieurs évangiles et tout un enseignement sur les relations entre enfants et parents, n'est-ce pas? De manière à ce que nous n'extrapolions pas et que nous ne fassions pas dire au Seigneur Jésus ce qu'il n'a pas voulu dire. Alors nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'un texte de la Bible, subitement un petit morceau de Bible, s'impose à notre esprit que c'est Dieu qui l'a forcément mis là. Attention. Et si c'était le diable? Surtout quand on connaît mal les Écritures. Et qu'on serait parfois même incapable d'aller chercher où ce petit morceau se trouve dans les Écritures. Alors j'aimerais dire ce soir, et je le fais vraiment solennellement, parce que c'est une souffrance de voir trop d'églises évangéliques divisées. Par des croyants qui viennent d'une église à l'autre, avec des songes, des visions, des révélations, et qui vous foutent des églises en l'air. Pardon de le dire comme ça ce soir. Mais je pense que si l'apôtre Paul était là ce soir, il le dirait peut-être plus fortement encore. Mais nous avons un christianisme tellement homéopathique, n'est-ce pas, qu'on a peur de dire les vérités comme Jean et Paul les disaient. Mais pourtant c'est ça. Et je ne comprends pas que nous ne soyons pas indignés devant les églises qui sont divisées. J'en vois continuellement. Je pense à une église qui s'est divisée parce que un farfelu qui était ancien de l'église par-dessus le marché est allé dire avec une bande de petits copains que cette église locale devait complètement disparaître, Dieu le lui avait dit. Et qu'une fois qu'elle serait complètement détruite, Dieu en referait une nouvelle. Mes amis, oui. Et je l'ai entendu ça de mes propres oreilles. Vous entendez? De mes propres oreilles. Et ça date de 8 ou 9 ans. Vous croyez que l'église est détruite? Ah, elle a été divisée. Mais parce que c'était l'église de Jésus-Christ, elle n'a pas été détruite. Entre-temps, il y a eu des drames. Ça a laissé des blessures. Et finalement, ce groupe schismatique est rentré depuis dans l'Église. Il a repris sa place. Et dans cette Église, cette personne a eu l'audace, vous entendez, l'audace, de demander qu'il soit reconnu qu'elle n'était même pas coupable de la scission de l'Église. Et on lui a donné quitus. On était d'accord. Et nous ne serions pas indignés par de telles choses. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous de tous ces soi-disant prophètes de l'Éternel qui viennent avec leurs illuminations. Dieu m'a parlé. Quand Dieu parle, vous savez ce qui se passe. Le message qu'il annonce est vrai à 100%. S'il est vrai à 99,9%, c'est une fausse prophétie. On ne manipule pas Dieu, on ne manipule pas les Écritures. Dieu est un Dieu saint. Trop de croyants s'imaginent être en liaison directe avec le ciel. Et ils négligent les Écritures au profit de leurs inspirations. Dans Jude, au verset 8, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, il est question d'hommes entraînés par leur rêverie. Et je dis qu'il y a trop de disciples de Christ dans l'Église évangélique en France qui sont entraînés par leur rêverie. Et pas du tout par la parole de Dieu. Et vous savez ce qui est ajouté dans le texte? Il est ajouté que ces personnes, en général, elles méprisent l'autorité. C'est intéressant. Elles vont d'une église à l'autre. Et elles ne se soumettent jamais à l'autorité de Dieu dans une église locale. J'ai eu une vision, je dois aller à tel endroit bâtir une église. Et on y va. En franc-tireur. Et on détruit, on casse, on blesse. Et le témoignage de Christ est bafoué aux yeux de la population locale. Ce n'est pas ainsi que Dieu dit sa volonté. Alors il est important de faire attention, de ne pas nous associer aux semeurs de troubles et aux diviseurs. Je vous mets en garde ce soir. Soyez des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu tout entière. Vous avez des croyants qui font le vide pendant leur recueillement matinal. Et puis, ils notent sur une feuille toutes les idées qui viennent à leur esprit en partant du principe qu'elles sont suggérées par Dieu. Puisqu'on se recueille en présence de Dieu. Ouais. On écoute. On note. On pratique. Est-ce que Dieu nous aurait appelés à être des médiums? Est-ce qu'il est dit dans les Écritures que nous devons faire le vide? Certes, nous devons faire du nettoyage. Les coups de balai du ciel doivent passer dans notre cœur terrestre, n'est-ce pas? Le sang de Jésus doit passer par là, pour que l'huile du Saint-Esprit entre ensuite, n'est-ce pas? Mais pas de maison vide. Même balayée et ornée, de peur que cet esprit plus méchant que celui qui était là avant ne s'empare du domicile, et que ce soit plus terrible après. Alors, vérifions d'où viennent nos élans intérieurs. Est-ce qu'ils viennent de Dieu? Est-ce qu'ils viennent de nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'ils viendraient du monde démoniaque? De ces démons qui attaquent, qui suggèrent? Parce que nous avons oublié que nous, disciples de Jésus-Christ, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre des puissances, des autorités, des dominations, des trônes, des dignités, n'est-ce pas? Toute une hiérarchie. toute une puissance de l'air, des esprits méchants dans les lieux célestes qui se déguisent en anges de lumière pour essayer de faire tomber les croyants. Alors, mes amis, il est l'heure de nous réveiller dans ce domaine et de ne pas prendre pour parole de Dieu tout et n'importe quoi. Si je voulais croire tout ce qu'on raconte sur le nombre de chanteurs de hard rock qui sont convertis à Jésus-Christ, mes amis, mais toute la planète devrait être convertie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? La parole de Dieu dit que quand on est converti à Jésus-Christ, on porte du fruit digne de la repentance. Où est-elle la repentance ? Où est-il le fruit de la repentance ? Où allons-nous chercher certaines manières de penser ? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu ? Alors parce qu'un bruit court, on l'amplifie, on raconte n'importe quoi ! Et le diable rit. Il faut la Bible tout entière pour faire un chrétien tout entier. C'est Tozer, cet homme de Dieu remarquable, tellement fondé sur les Écritures, qui est mort au service de Dieu dans les années 60, qui a écrit cela. Il faut la Bible tout entière pour faire un chrétien tout entier. Alors, est-ce que la parole de Dieu occupe la place qu'elle doit occuper dans nos vies ? Elle est notre table d'orientation, elle est notre boussole. C'est la parole de Dieu écrite qui est l'expression irrévocable de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous voulons la discerner, la volonté de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et ne croyons pas n'importe quoi parce que des gens disent que Dieu leur a parlé. Ô Seigneur, nous voulons te prier ce soir pour que tu nous visites, que tu nous réveilles, que tu changes quelque chose dans nos vies. Nous te prions pour que tu interviennes et nous te demandons pardon. Pardon pour tous les errements dus à nos paresses, à toutes ces voix de sirènes que nous avons écoutées parce que ce sont les sirènes de la facilité qui nous permettent d'éviter, de court-circuiter la recherche de ta personne et de ta pensée dans ta parole. Pardonne-nous de faire l'économie de ta parole et de vouloir pourtant vivre de ta volonté comme si l'un était indépendant de l'autre. Seigneur, ô ce soir, visite-nous. Pourtant, tu nous le dis dans ta parole, ta volonté est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Tu ne nous veux pas du mal. Tu es un père. Et tu ne veux pas que nous soyons des chrétiens sombres, perpétuellement dans la tristesse, dans le légalisme. Tu nous veux heureux, mais tu nous dis heureux ceux qui méditent ta parole, ceux qui la gardent, ceux qui la mettent en pratique, ceux qui la serrent dans leur cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, renouvelle en nous le sérieux de la vie chrétienne afin que tu sois toi heureux et que nous vivions un christianisme qui atteigne les cœurs de ceux qui, en dehors de toi, sont comme des brebis errantes, sans berger. Ô, visite-nous, afin que nous connaissions ta volonté et que nous la pratiquions de jour en jour. Tu vois nos cœurs, tu vois notre soif, tu vois nos cris. Merci de prolonger cette soirée dans nos cœurs à chacun. Pour la gloire de ton nom.